Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 3 juillet 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Merci de votre écoute. Des centaines de manifestants palestiniens ont été blessés lors d'affrontements avec des soldats israéliens en Cisjordanie. Les Français sont plus de 70% à estimer que les injustices ont augmenté et au moins 10 personnes ont été tuées et 9 autres blessées lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans un restaurant très fréquenté au carrefour de Djouba, dans la capitale somalienne Mogadiscio. C'était les principaux titres, en voici le journal. Téhéran dément les accusations anti-iraniennes de Washington concernant les attaques contre les forces US en Syrie et en Irak. Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité, l'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, Majid Tartravanchi, a déclaré « La République islamique d'Iran n'a jamais été impliquée directement ou indirectement dans aucune attaque armée par une entité ou un individu contre le personnel ou les installations des États-Unis en Irak. » Selon Tartravanchi, les attaques des États-Unis constituent une violation flagrante du droit international, en particulier de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Les récents efforts des États-Unis pour accuser les autres pays dans la région sont voués à l'échec. Par ces accusations, les Américains envisagent de détourner l'attention de l'opinion publique de leurs actions militaires illégales et aventureuses dans la région, a conclu l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies. Des centaines de manifestants palestiniens ont été blessés vendredi dans des affrontements avec des soldats israéliens en Cisjordanie, selon des médecins et des témoins oculaires. Les affrontements ont éclaté près du village de Beïta, au sud de la ville de Naplouse en Cisjordanie. Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles, des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur les manifestants palestiniens qui ont jeté des pierres sur les soldats, brandi des drapeaux palestiniens et scandé des slogans anti-israéliens, ont dit les témoins oculaires. Des médecins du Croissant Rouge palestinien ont affirmé dans un communiqué de presse qu'au moins 150 Palestiniens avaient été blessés, dont un journaliste de presse et un secouriste. Chaque vendredi, les Palestiniens manifestent dans différentes régions de Cisjordanie contre la construction et l'expansion des colonies israéliennes et se heurtent généralement aux soldats israéliens. Parallèlement, les médias palestiniens locaux ont indiqué que des activistes palestiniens avaient lancé pour la première fois des ballons incendiaires en direction des avant-postes des colonies israéliennes dans le village de Beïta. Dans la nuit, des avions de chasse israéliens ont attaqué un poste militaire du Hamas dans la ville de Gaza, en réponse aux ballons incendiaires lancés depuis la bande de Gaza. Fawzi Bahroum, porte-parole du mouvement de la résistance palestinienne Hamas, a dit que le Hamas poursuivrait sa résistance jusqu'à ce qu'Israël regrette sa politique contre les Palestiniens. Le bombardement ne changera pas la détermination du peuple palestinien à poursuivre le chemin de la lutte par tous les moyens de résistance pour faire valoir ses droits et mettre fin à ses souffrances, a dit M. Bahoum. En Syrie, deux enfants ont été blessés vendredi 2 juillet dans l'explosion d'une mine abandonnée par les terroristes Daesh dans la localité de Roulaib al-Saou, à l'est de Salamiya, dans la banlieue est de Hama. Le correspondant de l'agence de presse officielle syrienne Sana a indiqué qu'une mine terrestre abandonnée par les terroristes Daesh avait explosé dans la localité de Roulaib al-Saouvre, à l'est de Salamiya, ce qui a fait deux enfants blessés. Il a ajouté que les deux enfants avaient été immédiatement hospitalisés à l'hôpital national de Salamiya pour recevoir le traitement nécessaire. De même, un jeune homme est tombé en martyr vendredi soir dans l'explosion d'une mine abandonnée par les terroristes Daesh dans la zone de Tabawir, dans la banlieue est de Homs. Le correspondant de Sana a indiqué qu'une mine avait explosé vendredi soir dans la périphérie du village d'Om Tababir, dans la zone d'Al-Ferlos, et y avait fait un martyr âgé de 17 ans alors qu'il prenait soin de ses moutons. Le ministre russe de la Défense a mis en garde vendredi 2 juillet contre la reproduction des événements d'attaques chimiques dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a annoncé ce vendredi 2 juillet avoir reçu des rapports selon lesquels la soi-disant ONG de protection des civils, les casques blancs, prépare la mise en scène d'une nouvelle attaque chimique à Idlib. Selon le contre-amiral Vadim Kolet, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, affilié au ministère russe de la Défense, le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, HTC, prépare une attaque chimique dans la zone de désescalade d'Idlib. Avec l'usage de substances toxiques, ils veulent accuser l'armée syrienne de détruire les infrastructures civiles dans le sud d'Idlib, a annoncé vendredi Vadim Kolet dans un rapport. Accompagné de la pseudo-organisation humanitaire Casque Blanc, les terroristes ont déjà déchargé environ 10 barils de substances toxiques par camion dans une zone près du village de Harim dans la province d'Idlib, a-t-il révélé. Selon les informations disponibles, les terroristes ont l'intention de lancer une attaque chimique au sud de Jabal Zawiya pour accuser les forces gouvernementales syriennes de recourir à l'usage des substances toxiques contre la population civile, a-t-il fait savoir. Ce n'est pas la première fois que Moscou et Damas mettent en garde contre les agissements suspects des terroristes, visant à lancer une nouvelle mise en scène chimique afin de rendre le terrain propice à une intervention militaire étrangère. Les Français sont plus de 70% à estimer que les injustices ont augmenté. Que ce soit dans le domaine économique, social ou celui de l'accès aux droits, les Français sont plus de 70% à estimer que les injustices ont augmenté selon un nouveau sondage. En outre, plus de la moitié affirme en avoir fait eux-mêmes l'expérience. Un sondage réalisé par l'IFOP pour le Conseil national des barreaux, CNB, vient de révéler que les Français sont très nombreux à réagir aux injustices au sein de la société et que celles-ci touchent toutes les catégories de la population sans distinction. Plus de la moitié des Français ont fait l'expérience d'une injustice. 59% le ressentent souvent ou de temps en temps, contre 41% qui ont répondu rarement ou jamais. Les différences dans l'expérience du sentiment d'injustice sont particulièrement marquées chez les femmes, 64%, et moins chez les hommes, 55%. Elles sont également entre les 65 ans et plus, 44%, et tous les autres, plus de 60%. Le niveau des injustices semble en outre être directement lié à la classe sociale. Si dans la catégorie aisée, ce chiffre est de 44%, il va croissant à mesure que les revenus des personnes interrogées baissent et constituent 58% et 57% pour les classes moyennes supérieures et moyennes inférieures, mais montent à 62% pour la catégorie modeste et atteint 79% pour la catégorie pauvre. La France prend les opérations conjointes avec les troupes maliennes. Après avoir suspendu leur coopération bilatérale à la suite du coup d'État au Mali en mai, les forces françaises reprennent leurs opérations conjointes avec les forces armées maliennes dans la région. Le mois dernier, le président français a déclaré que l'opération de la France contre les terroristes dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest prendrait fin, les troupes opérant désormais dans le cadre d'efforts internationaux plus larges dans la région. Emmanuel Macron avait alors expliqué que des consultations concernant la poursuite de l'engagement français au Sahel devaient être menées avec les États-Unis et les partenaires européens de la France, ainsi qu'avec les pays du G5 Sahel, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie. Au moins 10 personnes ont été tuées et 9 autres blessées lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans un restaurant très fréquenté au carrefour de Djouba, dans la capitale somalienne. Mogadiscio ont indiqué vendredi la police et des témoins. Sous le couvert d'anonymat, un officier de police a confié à Chinois qu'un kamikaze a déclenché le détonateur de son gilet explosif dans un café-restaurant faisant des victimes. Nous pouvons confirmer que 10 personnes sont mortes dans l'explosion et que 9 autres ont été blessés. Le nombre de morts pourrait augmenter, a-t-il ajouté. Des témoins ont signalé l'explosion, disant avoir entendu une énorme déflagration dans le quartier de Jibiz à Mogadiscio. Nous avons entendu la déflagration et avons ensuite appris qu'un restaurant avait été touché, a dit un témoin. D'autres témoins ont affirmé que l'énorme explosion avait détruit des bâtiments à proximité. Personne n'a revendiqué la responsabilité de cette dernière attaque, mais le groupe terroriste Aliyah Al-Qaïda Al-Shebab a l'habitude de mener de telles attaques dans la ville. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Nucléaire. Les États-Unis misent échec et mat. Biden finira par boire la tasse de poison lors des pourparlers de Vienne, a écrit le journal Royal Yom, faisant référence aux attaques américaines contre les positions des Hashd al-Shaabi et aux mesures de représailles de la résistance contre des bases américaines. Les attaques lancées par les États-Unis contre les positions des Hashd al-Shaabi et les contre-attaques de la résistance irakienne contre leurs bases en Syrie et en Irak ces derniers jours compliquent les négociations nucléaires de Vienne entre Washington et Téhéran. Mais en même temps, elles sont représentatives des acquis autour de la table de Vienne, a écrit Kamal Khalaf dans un article paru dans le journal Royal Yom. L'heure est de prendre des décisions difficiles. Les négociations ont presque abouti, mais la décision demeure et l'administration américaine doit boire la tasse de poison, prendre la décision de revenir à l'accord et de lever complètement les sanctions contre l'Iran. Je ne vois pas qu'elle a beaucoup d'options pour éviter cela, a souligné Kamal Khalaf. Le chef de la délégation iranienne participant aux négociations de Vienne, Abbas Araghchi, a déclaré il y a quelques jours que les négociations ont suffisamment duré sur certaines questions en suspens, avec le G4+1 et qu'il est temps de prendre des décisions. L'article de Royal Yom ajoute que la vérité est que la délégation américaine a lié des dossiers politiques, dont l'accord stratégique entre l'Iran et la Chine, aux négociations de l'accord nucléaire, ce qui est le fond du problème. Téhéran n'acceptera de parler d'aucune question politique en dehors du cadre du programme nucléaire. Selon l'auteur de l'article, l'attaque contre la base militaire américaine dans la campagne de Deir ez-Zor, au nord-est de la Syrie, et la riposte des forces américaines en bombardant des sites à l'intérieur de la Syrie fait partie de la bataille des doigts mordants avant la signature finale à Vienne. Les Iraniens ont clairement dit qu'ils ne fourniraient plus à l'agence aucune vidéosurveillance de l'intérieur de leur site nucléaire et que l'accord avec l'agence avait expiré. Les conditions politiques actuelles des États-Unis et les défis internationaux auxquels l'administration Biden est confrontée aujourd'hui, les orientations de la stratégie américaine annoncée et l'environnement politique et sécuritaire dans la région empêchent l'administration Biden de revenir à la stratégie de pression maximale avec ses frictions militaires dangereuses, ouvrant la porte à des possibilités de guerre tout au long de l'ère de la précédente administration. En parallèle, l'administration US ne peut pas parvenir à un accord international sur le dossier nucléaire et quitter le programme nucléaire iranien sans le lier à des engagements, car, selon les évaluations américaines, il comporte des risques et constitue un revers pour les politiques gouvernementales et les promesses électorales de Biden. Les Iraniens ont donc mis le président Biden dans une situation très difficile et ils ne lui ont laissé qu'une seule voie désormais, qui est de répondre à leur demande à Vienne. La question qui s'impose, les négociations de Vienne vont-elles échouer? on peut affirmer que ce n'est pas vrai. Selon les faits et circonstances de toutes les parties impliquées dans ces négociations, les parties iraniennes et américaines frappent du poing sur la table pour obtenir le maximum d'exigences avant la dernière signature. Le septième tour sera décisif et nous attendons de nouvelles déclarations positives. Dans la plupart des cas, l'Iran obtiendra ce qu'il veut, conclut l'article.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 2 juillet 2021. L'exercice naval iranien baptisé Amniyat Paydar, sécurité durable, s'est déroulé mercredi dans la mer Caspienne. Des unités de surface et aériennes, de l'armée de terre, des lanceurs de missiles, des hélicoptères et des systèmes de guerre électronique ont pris part à cette manœuvre maritime, mais aussi aérienne. L'exercice s'est déroulé dans une étendue de la mer Caspienne d'environ 77 000 km, soit les 20% qui appartiennent à la République islamique d'Iran. L'objectif de cet exercice serait de protéger les eaux territoriales iraniennes, mais aussi de maintenir les lignes de transport. Des drones de la marine iranienne ont également mené des opérations de surveillance couvrant toute l'étendue de la mer Caspienne, c'est-à-dire de l'étendue maritime, en effet utilisée pour ces manœuvres par la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces manœuvres importantes dans la mer Caspienne, leur message, et au moment justement où l'OTAN cherche à maintenir une présence en menant des activités provocatrices dans la région. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Lors d'un exercice naval qui s'est tenu ce mercredi 30 juin en mer Caspienne, les drones iraniens Yassir et Ababil ont accompli une mission de reconnaissance en transmettant des données de navires à un centre de contrôle et de commandement. Les drones de moyenne portée de Yassir et d'Ababil, tous les deux fabriqués à l'intérieur de l'Iran, ont capturé des images de l'exercice « Sécurité durable 1400 » avant de les transmettre en ligne à un centre de contrôle et de commandant. Les deux drones ont bien accompli une mission de reconnaissance de navires. Le drone Yassir a été fabriqué il y a une dizaine d'années en Iran sur la rétro-ingénierie du drone Scon Eagle, construit par les sociétés américaines Boeing et Institut, qui avait été fait descendre un an plus tôt par la DCA, du corps des gardiens de la révolution islamique. Yassir est long d'un mètre et pèse une vingtaine de kilogrammes. L'appareil est en mesure de rester dans le ciel entre 7 et 10 heures et d'atteindre une altitude de 15 000 pieds et une portée de 200 km. Le drone Yassir est guidé par les stations de contrôle mobiles qui sont basées sur le sol. Le drone commence son vol à l'aide d'une rampe de lancement et accomplit sa mission de reconnaissance grâce à ses caméras de pointe. Le poids léger, la grande vitesse et la considérable marge de manœuvre du drone Yassir lui permettent tous de réussir ses missiles de reconnaissance. Étant furtive, le drone Yassir est doté d'un mémoire intérieur et d'un système d'autopilotage. À noter que le drone Yassir fait également partie des opérations de la résistance en Irak, au Liban et en Syrie. Au cours de l'exercice naval sécurité durable 1400, les fusiliers marins et les commandos de la marine de l'armée iranienne ont participé à des opérations de combat, épaulés par les hélicoptères 212 et les navires lance-missiles. En plus, l'unité spéciale de la marine de l'armée iranienne a mené des opérations de guérilla et de contre-guérilla ainsi que des opérations d'infiltration sur la côte. Lors d'une autre phase de la manœuvre, les forces de la marine se sont exercées à tirer vers les cibles de surface et aériennes.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci infiniment de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Moscou, Fabrice Boer, expert pour l'ONG AUD. M. Boer, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre antenne et de débattre avec M. Dortiguier.
Monsieur Boer, peut-être pour la première fois, une manœuvre d'une telle importance, d'une telle envergure dans la mer Caspienne est d'importantes, en effet, unités de surface aérienne, mais aussi des systèmes, des lanceurs de missiles, des drones et des systèmes de guerre électronique ont pris part à cette manœuvre qui s'est déroulée mercredi. Une première question, quel est le message et l'importance de cette manœuvre iranienne, des forces armées iraniennes dans la mer Caspienne ?
N'étant pas dans les petits papiers tout de même de l'armée iranienne, je ne puis donner le détail. Ceci étant dit, on peut en extraire, à mon humble avis, deux possibles leçons. La première, c'est une leçon à destination de ce qui se passe, on va dire, dans le golfe Persique. Des manœuvres, justement, en Caspienne permettent aussi d'éviter les provocations, toute la propagande qui peut avoir tout autour, généralement des manœuvres militaires des pays considérés comme ennemis par les États-Unis. C'est un premier élément, tout en faisant acte de démonstration des nouvelles capacités militaires et, comme cela a été indiqué, spécifiquement tout de même les drones dont l'Iran aujourd'hui quand même grade assez rapidement le niveau de compétence et à ce moment-là donc des différentes armes qui aujourd'hui effectivement sont incontournables. Et d'un autre côté, la région où ça s'est passé, ce n'est pas anodin, puisque quand bien même qu'on peut avoir des relations internationales, allons-nous dire, convenables et apaisées, et normales, il n'empêche qu'il faut quand même prendre en compte de ce qui s'est passé dans le Caucase du Sud, à savoir le conflit dans le Haut-Karabakh, où nous avons vu à ce moment-là l'armée turque intervenir aux côtés de l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ayant mis un pied dans la porte du Caucase, Ankara, aujourd'hui, veut installer des bases, semble-t-il, en Azerbaïdjan. Et qu'est-ce que la Turquie, à part la deuxième armée de l'OTAN ? Et on sait très bien ce qui se passe dans les politiques américaines, qui est toujours une politique de containment, d'encerclement. Et ils ont bien évidemment l'envie d'arriver sur la Caspienne, parce que la Caspienne, ça ouvre tout l'Asie centrale. Et étant donné qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'extraire de l'Afghanistan, cela pourrait être un élément de repli de certaines de leurs forces. Et on comprend bien, évidemment, que c'est un danger pour la République islamique d'Iran, ce pourquoi on peut envisager, sans faire trop de plans sur le futur, que ces manœuvres étaient à destination, effectivement, des forces de l'OTAN qui ont comme idée de vouloir s'installer dans la Caspienne. Et qu'on sait très bien, lorsque l'OTAN vient quelque part, cela n'amène que des tensions. On le voit bien en mer Noire avec toutes les différentes provocations des navires, qu'ils soient anglais ou néerlandais, donc des navires de l'OTAN. En cela, ces manœuvres est un avertissement démontrant que les forces iraniennes sont prêtes et qu'il ne faut pas penser que cela pourrait être une base d'agression future contre l'Iran.
Merci infiniment, M. Boer, pour ces éclairages. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, M. le professeur Pierre Dortiguier. M. le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Codabandé. Bonjour à tous les auditeurs et bien sûr à M. Boer, que je remercie de sa présence.
M. le professeur, M. Boer a rappelé qu'il s'agit là, bien sûr, d'une démonstration en premier lieu des capacités. Des nouvelles capacités militaires dans la République islamique d'Iran, mais bien entendu, il faut replacer ces manœuvres dans le contexte des événements régionaux, avec tous ces événements qui viennent de se passer Alors, si on remonte en arrière, le conflit dans le Caucase du Sud, le conflit du Haut-Karabakh, ou tout récemment, ces provocations, notamment anti-russes de l'OTAN, avec cette intrusion du destroyer britannique. Ceci étant dit, alors, quel constat tirez-vous, monsieur le professeur, de ces manœuvres de l'armée iranienne dans la Caspienne?
Eh bien, elles sont, vous avez bien fait, monsieur, de rapporter cet incident dans la mer Noire, qui a fait justement utiliser à monsieur Poutine du terme de plusieurs fois de provocation. En effet, c'est une sorte de tentative, bien sûr, de pénétration, monsieur Borla dit aussi, tentative de pénétration que l'on peut estimer également être le cas, un des objectifs, disons, des forces de l'OTAN dans la mer Caspienne, par l'intermédiaire, disons, par la captivité dans laquelle la Turquie est tenue, justement, par le maintien, disons, de son armée à l'intérieur de l'OTAN, qui était justifiée autrefois, bien sûr, par les menaces de l'Union soviétique, bien sûr. Mais aujourd'hui, les choses peuvent changer. Ce que l'on peut retirer, votre commentaire, le commentaire de votre présentatrice est excellent à ce sujet, c'est d'abord pour les observateurs que nous sommes, pour les étrangers que nous sommes de l'extérieur, c'est que l'Iran a obtenu, a maintenu un niveau technologique malgré les obstacles des blocus, etc., et qu'il a réussi à imiter, disons, et à perfectionner justement ce système de Boeing. Et, ceci est une première leçon, mais une leçon, à mon avis, la plus essentielle. C'est-à-dire que le niveau technologique, c'est précisément ce qui fait reculer l'adversité. Et témoigne même d'une stabilité sociale que l'on veut justement ici caricaturer. L'usage donc de ces drones, tout cela, est quand même très important, et très important justement. Et il est vrai qu'on ne peut que supposer qu'il y a une stratégie à moyen terme, je ne dis pas à long terme, mais à moyen terme de l'OTAN. L'autre jour, vous avez eu l'honneur de m'interroger, j'ai eu l'honneur d'être interrogé par une de vos journalistes sur la réunion qui a eu lieu à... ce qui a eu lieu à l'île de la Réunion, justement, entre un contre-amiral, je crois, iranien et notre compatriote français, donc l'amiral Bagnier, je crois, et qui s'est passé dans une réunion qui a été dans un cadre amical tout à fait remarquable. Et donc, je pense qu'il y a, que l'Iran sent qu'il y a deux types de forces. Un type de force qui est favorable à un accommodement, c'est-à-dire à sa reconnaissance comme puissance légitime, et en même temps d'autres forces qui, elles, pénètrent l'Occident, ne s'identifient pas à l'Occident, mais pénètrent l'Occident et les États-Unis et veulent maintenir, sous l'influence sioniste évidemment, veulent maintenir une agressivité permanente contre l'Iran. Et je crois que là, à ces attitudes, à ces manœuvres, disons, d'intimidation, ne peut répondre que la démonstration d'une puissance technique. Seule la puissance, disons, peut diminuer la volonté agressive. C'est pour cela que nous voyons ces manœuvres comme un facteur de paix, un facteur de stabilité, disons. Je crois aussi que c'est une attitude qui est... appréciée, bien sûr, par la Russie, appréciée également, il faut le dire aussi, par la Turquie, parce que la Turquie elle-même est prise dans un étau. Elle a un pied dans l'OTAN, en même temps qu'elle a, disons, un autre pied dans la région, comme vous dites, comme on le sait, et que, disons, il y a une contradiction, contradiction qu'il va falloir lever un jour, et que la Turquie prenne, disons, une attitude, à notre sens, disons, plus claire, plus nette, disons. Mais je pense que tous ceux qui veulent, dans les pays en Azerbaïdjan ou en Turquie, disons, avoir une attitude, disons, une position équilibrée, peuvent trouver justement dans ces manœuvres de la mer Caspienne, justement, des arguments pour dire que nous devons avant tout songer à une union régionale, voyez, et avant d'être l'objet ou le jouet, disons, d'intrigues étrangères. Je crois que c'est cela la signification profonde, non seulement matérielle, mais politique, de ces manœuvres. Et pour nous, disons, nous le voyons en Occident comme un facteur de paix, comme un facteur de pacification régionale.
Merci infiniment, monsieur le professeur d'Ortiguière, pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Beurre, donc la République islamique d'Iran aujourd'hui, bien sûr, vous avez rappelé au passage, monsieur d'Ortiguier aussi, se distingue par cette acquisition de nouvelles armes, de nouvelles technologies qui sont incontournables. Donc la République islamique d'Iran aussi a une puissance régionale incontournable, d'où justement cette rencontre et cette appréciation par le haut responsable militaire français. L'accueil chaleureux réservé justement au commandant en chef de la marine iranienne sur l'île de la Réunion. Ceci étant dit, alors justement, à quoi il faut s'attendre dans le contexte des évolutions régionales, que ce soit dans le golfe Persique ou encore dans la mer Caspienne, en ce qui concerne les manœuvres d'intimidation, comme disait M. d'Ortiguier, et les provocations des puissances extra-régionales, que ce soit les États-Unis ou encore d'autres pays membres, notamment de l'OTAN.
Je réponds donc à votre double question. Le premier élément, et je mettrai un bémol à ce qui a été affirmé par M. d'Ortiguier, à savoir sur la Turquie. La Turquie n'est pas entre un étau. La Turquie fait partie de l'OTAN, la Turquie fait partie de ce monde occidental qui n'est pas pour moi l'Europe. L'Occident, c'est le cache-sexe idéologique de la domination impérialiste américaine. Et la Turquie a comme idéologie aujourd'hui une idéologie pantouraniste qui est donc rentre en confrontation avec l'idéologie eurasiste aujourd'hui qui a lieu entre autres à Moscou. Ils sont en confrontation géopolitique. Il ne peut pas y avoir d'entente tant qu'en Turquie il y a cette volonté impérialiste de confrontation, cette illusion de revenir à une sorte d'empire ottoman différent en fédérant les peuples dits turcophones. Donc il y aura toujours cette confrontation et la Turquie est le cheval de Troie dans la région. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas effectivement discuter et trouver des terrains d'entente afin d'amoindrir la confrontation. C'est ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui se passe dans d'autres endroits. Mais il n'empêche que ce qui s'est passé dans le Caucase est un élément qui marque bien que la Turquie se sert de l'OTAN, donc de l'Occident, pour faire valoir ses intérêts expansionnistes, tout du moins dans sa sphère d'influence. Et en cela, ça ne contradit pas, bien évidemment, les objectifs américains d'encerclement et de la Russie et de l'Iran. Maintenant, sur la deuxième partie de votre question, en ce qui concerne, qu'indiquait M. d'Ortiguier, l'entente, il faut rappeler que la France a aujourd'hui compris, une partie de l'intelligence militaire a compris qu'il fallait sortir du cadre de l'Afrique et de la France-Afrique. Il y a encore des résistances, mais il n'empêche qu'avec l'action combinée d'ailleurs de la Russie et de l'Iran en ce moment, et de la Chine en Afrique, on voit très bien quel est le chemin qui se suit pour l'influence française, militaire à tout le moins, et la France a comme projet de redevenir une puissance maritime. En cela, elle a besoin, un, de discuter avec les nouvelles puissances maritimes. L'Iran s'affirme, encore des progrès à faire, bien évidemment, mais s'affirme sur toutes les mers du monde. Et des discussions en cela, on ne peut que se féliciter. Mieux vaut discuter que s'affronter, même s'il peut y avoir des hypocrisies. Mais ça, c'est le monde de la diplomatie. Mais pour autant, c'est vrai que c'est une première. Mais c'est tout à fait normal, puisque aujourd'hui, l'Iran affirme également sa présence dans l'océan Indien. Cela en relation, d'ailleurs, avec la Chine. Et aussi avec la marine russe. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'apaisement d'une partie peut-être de la marine française, mais dans le cadre de son projet de retour également. Donc il faut savoir que ce n'est pas évidemment amical, que c'est un premier élément pour voir quel dialogue est-il possible en ce qui concerne les futures, on va dire, relations presque frontalières d'un point de vue maritime. Donc c'est en cela qu'il faut prendre, mais il ne faut pas négliger, il ne faut pas mettre en dehors de cela jeter cela comme par perte et profit, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte, mais je rappelle quand même et toujours qu'aujourd'hui, la France est quand même également dans l'OTAN, totalement intégrée au commandement général de l'OTAN, c'est-à-dire sous commandement de l'OTAN, et sous commandement de l'OTAN, c'est le commandement américain. Il ne faut jamais perdre cela de vue. La souveraineté géopolitique des États au sein de l'OTAN n'existe pas ou n'existe plus. Et qui paye comment, vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Il faut bien comprendre que nous sommes face toujours à cet impérialisme américain et que ça peut prendre différentes formes aux différents drapeaux, mais nous y sommes toujours. Maintenant, favorisons à l'intérieur des armées de l'OTAN la vision que l'intérêt, par exemple, dans le cas précis de la France, n'est pas dans la confrontation avec la Russie, avec l'Iran ou avec la Chine, mais bien et bien dans le dialogue avec ce nouveau bloc eurasiatique qui est en construction pour retrouver des nouveaux équilibres au niveau mondial, et cela afin de garantir la paix mondiale et non le chaos qu'instaure la présence et les actions d'ingérence ou d'agression militaire du bloc occidental depuis la fin de la chute, depuis le début de la chute de l'URSS. Il faut bien le dire, les choses telles qu'elles sont. Donc nous sommes dans cette situation où aujourd'hui la démonstration iranienne dans la Caspienne était une démonstration de force, mais comme toute démonstration de force, ce n'est point pour dire que nous sommes agressifs, mais pour dire que agresser l'Iran aura également un coût, puisque ce n'est pas une armée d'un pays du tiers-monde et qu'elle a aujourd'hui de quoi répliquer et elle a démontré sur différents terrains. Donc c'est une démonstration de force pour amener à la paix certains pays ou certaines organisations régionales, ou afin d'éviter qu'elles aillent trop loin. C'est aussi un message envoyé aux voisins de l'Iran pour dire que l'Iran est ouvert au dialogue, mais qu'il ne faut pas la prendre évidemment pour une idiote et qu'elle a de quoi répondre aux provocations de l'OTAN. Je pense au coup de sang que peut avoir Erdogan et ce pantoranisme qui est un expansionnisme, et je pense également à cette politique américaine classique de l'OTAN qui est le containment pour valider le blocus, s'ingérer dans les pays, les déstabiliser et les détruire de l'intérieur.
Merci infiniment. Monsieur Barr, une toute dernière question à Monsieur Dortiguet. Monsieur Dortiguet, donc, on assiste aujourd'hui à un changement profond des rapports de force visant à trouver, comme l'a rappelé Monsieur Barr, nouveaux équilibres, nouvelles équilibres, en effet, sur la scène internationale et au sein de l'OTAN, comme l'a rappelé encore une fois Monsieur Barr, des souverainetés géopolitiques n'existent pas. Est-ce que ceci étant dit, la France, bien qu'elle soit en effet membre de l'OTAN, ce commandement américain pourrait, pour l'intérêt du peuple français, pour maintenir sa souveraineté, pourrait en effet prendre ses distances avec l'unilatéralisme agressif des États-Unis.
On va répondre directement, car je remercie à M. Bord ses observations aussi, que c'est un peu l'attitude. Je dirais que c'est un peu l'attitude, ce n'est qu'une sensation, enfin, de M. Le Drian. J'ai remarqué dans des interviews, des interventions qu'il a faites en France, à la télévision, enfin, sur des questions politiques, qu'il y avait, disons, une volonté, non pas de se dégager de l'OTAN entièrement, ça c'est pas possible, mais disons de composer avec, disons, d'avoir une sorte de vision réaliste, disons, et cette vision réaliste me semble être aussi, non pas ouvertement exprimée, mais présente chez notre allié allemand, qui lui-même, disons, a des difficultés économiques et soutient à bout de bras, bien sûr, la crise économique en Europe, et nous soutient aussi considérablement, et s'aperçoit que, quelles que soient les exigences américaines, il y a une faiblesse à l'intérieur des États-Unis, qui est une faiblesse interne, une faiblesse financière et autres. Et donc, on ne peut pas, disons, sous prétexte d'appartenir à la même alliance, obéir aveuglément, comme nous l'ont demandé les Américains depuis, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que, de ce point de vue, la crise économique, la crise financière présente, et surtout à venir, joue un certain rôle, disons, dans ce degré de réalisme. Et c'est pour ça que, bien sûr, on ne peut pas du tout se faire des illusions sur la prison, cette prison militaire qui est l'OTAN, naturellement. Mais disons que ce ne sont pas simplement des armées, vous savez, on peut tout faire à M. Borne de dire par le contraire. On peut tout faire avec des baïonnettes, ça s'assort dessus. C'est-à-dire qu'il faut quand même tenir compte aussi de la réalité économique, tenir compte des échanges. Et ceci, par exemple, peut tempérer, pour reprendre une observation de M. Borne, tempérer le pantouranisme, par exemple, dont il parlait, que j'ai étudié longtemps, d'ailleurs, j'ai un camarade qui était spécialiste de cette question en France, M. Georgeon. Et donc, je dois dire que ce n'est pas une utopie de la part du gouvernement français. Ce n'est pas un faux semblant. Il y a vraiment des forces en Europe qui veulent se montrer, disons, réalistes.
Merci. Merci infiniment. Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse. Je remercie également Fabrice Poir, expert pour l'ONG ODE, d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Focus. Lors d'une rencontre avec son homologue français, le commandant de la marine iranienne a appelé à la fin de la présence des forces navales américaines et européennes près des côtes sud de l'Iran, ce qu'il a qualifié de préjudiciable à la sécurité collective. Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Hossein Khanzadi, qui s'est rendu à la Réunion pour participer à la 7e édition du IANS, a rencontré sur l'île le chef d'état-major de la marine française, l'amiral Pierre Vandier, situé dans l'océan indien près de Madagascar, au sud-est de l'Afrique. Lors de la réunion, le contre-amiral Khanzadi a déclaré que l'Iran ne pouvait que protester contre la présence de l'Union européenne et d'un navire de guerre américain près des côtes iraniennes. Nous pensons que de tels arrangements de sécurité défavorables ne renforceraient pas la sécurité collective et doivent être suspendus, a souligné le commandant iranien. Il a déclaré que l'Iran ne voit pas pourquoi les forces de la coalition dirigée par les États-Unis ont été déployées dans le golfe Persique et la mer d'Oman, qui selon lui sont une région sûre et stable, contrairement au golfe d'Aden et au détroit de Bab al-Mandab. Téhéran attribue la présence des forces navales ultra-régionales dans la région du golfe Persique à l'affaiblissement du dialogue entre les marines influentes, a déclaré Khanzadi. Il a également déclaré au commandant français que la marine iranienne surveillait de près les mouvements des forces de la coalition dirigée par les États-Unis, y compris les navires européens et français dans la région du golfe Persique, même à longue distance. L'Iran estime que la sécurité maritime dans chaque région géographique doit être assurée par les seuls États de la région, a ajouté le commandant. Pour sa part, l'amiral Vandier a déclaré que l'ancien président américain Donald Trump avait appelé tous les alliés à envoyer des forces navales dans la région et à faire pression sur l'Iran, mais la France s'est éloignée dans une certaine mesure de la politique américaine. Cependant, a-t-il ajouté, les pays européens ont dû déployer les forces dans le golfe Persique pour assurer la sécurité régionale, mais la France n'a participé à aucune des opérations américaines. La France a cherché à décider de manière indépendante et sans le soutien et les informations fournies par les États-Unis, a déclaré Vandier, ajoutant que la marine française n'avait été engagée dans aucun affrontement avec les États riverains du golfe Persique. La France et l'Europe sont favorables à l'instauration d'une sécurité sans escarmouche ni tension, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux forces françaises coopèrent avec les États-Unis et sont également disposées à travailler en coopération et à avoir des contacts avec la marine iranienne. L'amiral s'est également engagé à transmettre le message de l'Iran au gouvernement français, soulignant que les relations entre les marines françaises et iraniennes doivent être renforcées pour aider à réduire les tensions dans la région. L'Iran est membre permanent de l'IONS, exerce sa présidence de 3 ans depuis 2018. L'IONS est une initiative volontaire qui vise à accroître la coopération maritime entre les marines des États riverains de la région de l'océan Indien en offrant un forum ouvert et inclusif pour la discussion des questions maritimes pertinentes au niveau régional. Les accusations des Occidentaux sur le programme balistique iranien sont sans fondement selon la Russie. Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, a assuré le mercredi 30 juin les accusations des pays occidentaux concernant le programme de missiles balistiques de l'Iran sont sans fondement. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui discute de rapport semestriel du secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution de 2015 et sur l'accord nucléaire, conclu entre l'Iran et les 5+1, M. Nebenzia a accusé les États-Unis de poursuivre leur politique consistant à exercer une pression maximale sur l'Iran et à violer la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui réglementait l'élaboration du plan d'action global commun. Malheureusement, nous n'avons pas encore assisté à un véritable examen des décisions prises par la précédente administration des États-Unis, a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Il a ajouté, dans la pratique, la partie américaine poursuit la politique de pression maximale sur l'Iran, y compris le maintien de l'effet des restrictions unilatérales et de l'embargo sur les armes imposées à l'Iran, bien que toutes les restrictions imposées par les Nations Unies à cet égard ne soient plus efficaces. Il a également souligné que les accusations des pays occidentaux concernant le programme de missiles balistiques de l'Iran sont sans fondement. Il a dit, ce ne sont que des spéculations. Ils n'ont donné aucun fait précis. Cela a été confirmé par le secrétaire général. Le délégué russe a déclaré que les États-Unis devraient immédiatement revenir à la mise en œuvre du plan d'action global commun sur le programme nucléaire iranien, appelant à consacrer tous les efforts à restaurer le plan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait exhorté l'administration du président américain Joe Biden a levé ou a exempté toutes les sanctions imposées à l'Iran et à étendre les exemptions liées au commerce du pétrole avec ce pays. Lors d'un discours célébrant le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste au pouvoir, le président chinois a assuré que le peuple chinois s'est levé et vanté un essor irréversible de l'Empire. Le président Xi Jinping a triomphalement vanté jeudi l'essor irréversible de la Chine, jadis colonisée, désormais puissance mondiale, lors d'un discours célébrant les 100 ans du Parti communiste et adressé en creux à l'Occident. Le temps où le peuple chinois pouvait être foulé aux pieds, où il souffrait, était opprimé et a jamais révolu, a-t-il lancé depuis la porte Tiananmen, d'où son lointain prédécesseur Mao avait proclamé la République populaire en 1949. Après des références aux guerres de l'opium, au colonialisme occidental et à l'invasion japonaise, Xi Jinping a loué le Parti communiste chinois pour avoir permis l'augmentation du niveau de vie et restauré la fierté nationale. La grande renaissance de la nation chinoise est entrée dans un processus historique irréversible, s'est-il félicité, adressant ainsi un signal à Washington qui décrit régulièrement Pékin comme un rival politique et économique. En Irak, un des dirigeants des forces de mobilisation populaire, Ashid al-Shaabi, a menacé de tuer des soldats américains en riposte au bombardement US contre un poste du Hashd à la frontière irako-syrienne. Sheikh Qais Khazali a affirmé lors d'un discours télévisé « Nous ne sommes pas des amateurs de sang ni des seigneurs de guerre. Les opérations de la résistance veillaient à ne pas verser de sang. Notre tactique consistait à épuiser les capacités militaires de l'ennemi pour le forcer à se retirer. Mais l'ennemi américain a prouvé qu'il sous-estime le sang de notre peuple », a-t-il expliqué. Et d'ajouter « C'est l'ennemi américain qui a commencé à tuer et déplacer la bataille à ce niveau » et de souligner « Les opérations de la résistance sont passées à une nouvelle étape et les soldats de l'occupation US doivent recevoir une punition à la hauteur de ce qu'ils ont infligé à nos chers jeunes », évoquant la loi du talion « œil pour œil ». Dent pour dent. L'aide aérien américain qui a coûté la vie le 28 juin à 4 combattants irakiens et 4 civils syriens a suscité la colère des dirigeants irakiens de l'armée irakienne et des Ashid al-Shaabi qui ont promis de se venger de Washington. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.